Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
La junte birmane reste sourde aux appels réclamant la libération du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. L'opposante vient de fêter ses 61 ans dans l'isolement de son assignation à résidence pour une nouvelle année. Quelques 1700 enfants de travailleurs immigrés vont acquérir la nationalité israélienne, une décision sans précédent qui ne s'applique pas aux enfants palestiniens qui ont grandi en Israël. L'Afrique du Sud s'est souvenue la semaine dernière des 30 ans du soulèvement du township de Soweto, réprimé dans la violence et le sang qui allait marquer le début de la fin de l'apartheid. Cela fait 17 ans maintenant qu'Aung San Suu Kyi est en butte aux vexations du régime birman, dont 10 années de privation totale de liberté. L'opposante et prix Nobel de la paix est toujours maintenue en isolement par une junte militaire insensible aux appels à sa libération. Mireille Boisson, d'Amnesty France, continue pourtant de plaider la cause de la prisonnière politique la plus célèbre au monde, qui bien seule vient de fêter ses 61 ans.
Fêter, je ne crois pas, hélas, vu sa situation et vu le coup de bambou qu'elle a encore reçu le 27 avec son ordre de détention qui a été prolongé d'un an de plus, alors que la dernière fois qu'il avait été prolongé, ça avait été, à la grande surprise de tout le monde, de 6 mois. Seulement, je dirais. Et là, le 27 mai, on lui a flanqué un autre ordre de détention de 1 an. Alors que les jours précédents, on avait des signes positifs et que je dirais que les gens qui suivent le dossier Birmanie avaient tous un certain optimisme, autant qu'on puisse en avoir avec la junte militaire qui est tellement imprévisible. C'est-à-dire que le 23, elle avait reçu pour la première fois depuis 2 ans la visite de quelqu'un d'extérieur, à savoir un vice-secrétaire général de l'ONU pour les affaires politiques, de Ibrahim Gambari, qui avait pu la voir et s'entretenir avec elle pendant 1 heure, et qui n'avait pas fait de communiqué, il le gardait à l'ONU, ce qui est bien normal, mais il avait dit qu'il l'avait trouvé en bonne forme. Et puis le 26, c'était l'AFP qui annonçait qu'on démantelait les barbelés autour de sa propriété et qu'on enlevait les pics sur le portail. Donc des signes qui semblaient plutôt positifs, on se disait tous, elle va être libérée. Et puis le 27 au matin, on a appris que l'ordre de détention était prolongé d'un an.
Est-ce que les autorités de Rangoon se sont expliquées sur cette mesure dure et sur ce durcissement quelque part par rapport à ce qui se faisait précédemment?
Ce n'est pas le genre de gens à donner des explications, surtout en ce moment. Hein. Je veux dire, ils ont même refusé des explications au ministre des Affaires étrangères thaïlandais, au ministre des Affaires étrangères de Malaisie, que la Malaisie préside l'ASEAN jusqu'à la fin de ce mois. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de les recevoir. Ils n'ont pas d'explication à donner à qui que ce soit, tout simplement. C'est leur façon de procéder.
Alors donc, mesure réitérée, donc, malgré les appels pressants de Washington, des Nations Unies et de plusieurs...
De l'Union Européenne.
Exactement, et de plusieurs pays voisins donc de la Birmanie, on vient de les citer.
Oui.
Résultat, le 31 mai, Washington a annoncé son intention de demander au Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution donc, qui appellerait la junte birmane à abandonner sa politique de répression. Est-ce qu'il y a des ouvertures à attendre de ce côté-là? Est-ce que finalement Rangoon est sensible aux pressions? Il ne semble pas.
On n'ose même plus dire Rangoon, puisqu'avec le déménagement de la capitale à Pinmaya, ou on ne sait même plus comment ils l'appellent, ils se referment sur eux-mêmes, ils refusent de communiquer avec tout le monde. Je dirais que les seuls qui ont eu récemment un peu de moyens de pression, c'est l'OIT pendant sa session, là, de ce mois-ci, ce qui a amené, alors c'est sur le travail forcé, bien sûr, eux et la Convention 29, ce qui a permis la libération de Susunwe, qui était une jeune femme qui, avec succès, a poursuivi les autorités locales pour travail forcé, mais qui a été ensuite condamnée à 18 mois de prison pour avoir insulté les autorités locales. Mais on dirait qu'il n'y a que l'OIT qui a eu un tout petit peu de moyens en ce moment. Je voudrais dire qu'il n'y a pas seulement les États-Unis qui demandent le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a l'OIT. Et il y a l'Union européenne également. Je crois qu'il y a une belle unité quand même pour demander à Rangoon de cesser cet immobilisme et de mettre enfin en pratique la feuille de route vers la démocratie. Mais ça semble être sans écho.
Alors rappelons que Aung San Suu Kyi donc, est confinée dans sa résidence donc à Rangoon. Les contacts qu'elle a sont pratiquement inexistants. Comment ça se passe finalement une journée type pour Aung San Suu Kyi, si on peut la décrire?
Depuis 16 ans, et sur les 16 ans qu'elle est en détention, en assignation à résidence en tout cas, elle a eu 10 ans d'assignation à résidence et 6 années de liberté très très limitée. Une journée typique, eh ben, je dirais que personne ne peut rien en dire puisque personne ne la voit. Avant, il y avait son médecin personnel qui venait deux fois par semaine et maintenant, il est autorisé au maximum à tous les 15 jours. La semaine dernière, vendredi, apparemment, elle a été brièvement hospitalisée pour un ennui gastrique aussi assez sévère. Mon intime conviction, c'est qu'ils ne veulent pas qu'elle meure en détention. Je pense que ça serait trop grave pour eux. Toutes les fois où elle a été malade, ils l'ont fait soigner. Moi, je crois qu'ils en ont quand même très peur, même si le ministre des Affaires étrangères a dit récemment en Thaïlande « Oh, on pourrait la libérer parce que maintenant, elle a plus d'importance, elle n'attirerait pas les foules ». Mais je crois qu'il ne croyait pas à ce qu'il disait. Et la preuve, c'est qu'ils ne l'ont pas libérée. Alors, je crois qu'elle tient le coup grâce à sa foi bouddhique et à la méditation. Mais ces journées doivent être terriblement solitaires. Mais on ne peut rien savoir. Ces journées, personne ne communique avec elle. Donc, on imagine sa très grande solitude et même pas de communication avec ses enfants et son petit-fils.
Alors, on évoquait donc cette volonté des États-Unis d'intervenir auprès du Conseil de sécurité. Est-ce que là, l'opposition de la Chine, de la Russie, même du Japon, ne compromet pas tout simplement ce projet qui va tomber à l'eau?
Et j'ajouterais l'Inde, moi, actuellement, puisque c'est une position récente de l'Inde de soutenir la junte birmane, tout ça pour le prix du gaz de l'Arakan. Et actuellement, l'Inde semble fournir des armes au régime birman. Enfin, il semble que ça va tomber. Enfin, ça ne passera pas, ça ne sera pas accepté. De toute façon, la Chine mettra son veto. Mais ça aura au moins le mérite de porter la question sur la scène internationale.
Vous venez de dire que finalement Aung San Suu Kyi tenait, avait ce courage probablement en partie, du moins pour ses convictions politiques, son combat politique et aussi pour ses convictions religieuses. Est-ce que les autorités bouddhistes du pays s'hasardent à soutenir ce combat ou en tout cas à exprimer une réprobation par rapport au gouvernement sur ses mesures à l'encontre d'Aung San Suu Kyi?
Je dirais que les autorités bouddhistes, la junte a réussi à les diviser, comme elle a réussi à diviser tout le monde et à faire régner la terreur. Donc, il reste des moines de la génération de 88, du grand soulèvement, je dirais, où on a réprimé les bouddhistes et les étudiants, qui sont encore dans l'opposition, mais leur opposition ne peut être que discrète, parce qu'autrement, ils seraient en prison, comme tout le monde. Mais les autorités bouddhistes, il y en a qui ont été corrompues, je dirais, par le pouvoir, il y en a qui sont dans la peur, et puis il y a tout de même des moines résistants qui donnent des informations et bien sûr qu'on ne pourrait pas nommer au risque de les mettre en danger.
Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur ce dossier qui malheureusement, enfin je veux dire, chaque fois qu'on y revient, on a l'impression de raconter plus ou moins les mêmes choses. Oui. Ce pays est tout à fait désolant. Vous évoquiez tout à l'heure le chapitre du travail forcé et on sait que pas mal d'organisations, d'ONG ont appelé à boycotter le pays, bon, politiquement, économiquement. Est-ce que tout ça fonctionne? Est-ce que ça a du poids? Est-ce que ce n'est pas, comme toujours, la population qui trinque?
Ben je le crains bien. C'est pour ça que, par exemple, nous, Amnesty International, on appelle à des sanctions ciblées, c'est-à-dire ciblées sur les autorités par le refus de visa, le refus de compte bancaire, le refus de les accueillir ou que ce soit. Mais effectivement, c'est la population qui trinque. On note très clairement une détérioration de la situation économique. Les usines textiles ont pratiquement toutes fermé, donc les gens qui étaient employés sont sans travail. On note un aggravement de la malnutrition. On note le fait que le gouvernement birman n'autorise plus la Croix-Rouge à visiter les prisons depuis le mois de février dernier, ce qui aggrave la situation des prisonniers. On constate que Médecins sans frontières quitte aussi la Birmanie à cause du harcèlement dont il est victime et qui ne peut pas travailler dans ces conditions. Tout à fait dernièrement, il y a une maison en banlieue de Rangoon où il soignait 40 personnes malades du sida. On a refusé d'enregistrer ces gens qui devaient être enregistrés comme résidents et on a fait des pressions sur le propriétaire de la maison pour qu'il les évacue. On a l'impression que le régime est de plus en plus crispé. En même temps, il est évident qu'il y a des problèmes au sein de la junte. Il y a eu des remaniements ministériels il y a 3 semaines avec des commandants militaires de région qui ont été nommés à des postes subalternes dans les ministères. Et avant-hier, il y a 7 8 ou 9, je ne sais plus, ministres qui ont été autorisés à prendre leur retraite. Donc il semblerait qu'il y ait des dissensions au sein de ce gouvernement, mais il n'y a pas eu d'explication, bien sûr, il n'en donne jamais. Est-ce que des troubles internes, est-ce que le mécontentement aussi des gens des ministères et de l'armée qui se sont trouvés obligés de quitter Rangoon pour Pimana, qui semble un endroit fort désagréable, éloigné de tout et sans possibilité, avec en plus beaucoup de malaria et une chaleur insupportable. Est-ce que ce mécontentement va conduire à quelque chose? Ça fait quelques années qu'on le suppose et qu'on ne voit rien venir. Il semble que la junte maintienne tout ça d'une main de fer. Mais la population est dans une situation incroyable. Ce qu'on arrive à voir maintenant, c'est que l'état de l'enseignement, qui était un des meilleurs enseignements autrefois en Asie du Sud-Est, est dans un tel état de décrépitude qu'il y a des parents qui essayent d'envoyer leurs enfants en Thaïlande pour qu'ils puissent aller à l'école. Et on voit des enfants qui arrivent ou des adolescents qui arrivent en Thaïlande, qui ne sont ni orphelins ni rien de tout ça, simplement pour qu'ils puissent avoir accès à l'éducation, tellement c'est devenu quelque chose d'impossible en Birmanie. Et récemment, ils ont fermé les écoles privées, où l'enseignement avait encore une certaine qualité.
On a l'impression parfois que ce pays est sur la route d'un pays comme la Corée du Nord. Hein.
C'est assez effrayant, mais c'est un peu je partagerai volontiers ce sentiment avec vous. Et on a l'impression que les gens qui tiennent le pouvoir se fichent éperdument de ce qui peut arriver à leur population, du moment qu'eux restent aux affaires et au contrôle de tout ça.
Quelques 1700 enfants de travailleurs immigrés vont bénéficier du statut de résident permanent en Israël, suite à une décision du Conseil des ministres. Cette décision sans précédent concerne 600 familles. Elle permettra aux enfants d'acquérir la nationalité israélienne après leurs obligations militaires en Israël et aux parents d'acquérir le statut de résident permanent. Cette mesure, toutefois, ne s'applique pas à plus de 3000 enfants de travailleurs palestiniens qui ont pourtant grandi en Israël, alors que leurs parents, il est vrai, travaillant au noir, n'ont jamais obtenu de visa de séjour. Les partis religieux ont dénoncé cette décision de régularisation, y voyant le premier pas vers la fin d'Israël en tant qu'État juif. Betsabé Salem en parle avec Michel Vacharsky, coprésident du Centre d'information alternative de Jérusalem.
Sans ce statut, ils sont expulsables à merci. Leurs droits ne sont que des privilèges qu'on peut leur retirer quand on veut. Donc avec un statut de résident permanent, ils ont non pas la citoyenneté, mais ils ont quand même un droit établi.
Alors aujourd'hui, il y a environ 180 000 travailleurs étrangers sur un total de 7 millions d'habitants en Israël. Quelle est la situation de ces travailleurs étrangers?
Alors d'abord, il y a 180 000 travailleurs étrangers reconnus. À mon avis, on peut facilement parler du double, environ 300 000, ce que reconnaissent les associations s'occupant de travailleurs migrants dans le pays. C'est une réalité, d'abord, qu'il faut reconnaître, ce qui n'a pas toujours été le cas. Reconnaître qu'il y a une communauté qui n'est pas juive, qui n'est pas arabe non plus, mais qui vit dans ce pays et qui en fait partie, et qui font partie du paysage sociologique, du paysage démographique de ce pays. C'est un problème du point de vue de la conception de l'État juif, qui se veut un État aussi ethniquement juif que possible, c'est-à-dire avec aussi peu de citoyens et de résidents non-juifs, et ce qui explique les difficultés pour l'État et pour la société de reconnaître cette réalité, qui est la réalité de toutes les sociétés modernes aujourd'hui, qui sont des sociétés où des flux migratoires font qu'il n'y a plus de pureté ethnique, entre guillemets, dans aucun pays, même ceux qui se définissent eux-mêmes par l'ethnie dominante du pays.
Apparemment, les enfants des Palestiniens ne sont pas concernés. Est-ce que c'est pas un petit peu choquant?
C'est plus que choquant. Nous avons une situation qui est unique au monde et qui est proprement scandaleuse, où un citoyen israélien qui n'est pas de confession juive et qui épouse un Palestinien des territoires occupés, ne peut pas obtenir la réunification familiale et donc est poussé soit à vivre son époux ou son épouse à vivre dans l'illégalité, soit à émigrer hors des limites du pays pour pouvoir vivre en couple et en famille avec son époux ou son épouse qui n'est pas qui est résident des territoires occupés. C'est absolu. Ça, il s'agit de citoyens, plus forte raison lorsqu'il s'agit de non-citoyens. C'est un cas unique au monde d'une ségrégation sur une base ethnique à propos d'un droit fondamental qui est celui de pouvoir vivre en famille dans son pays.
De leur côté, les partis religieux en Israël ont dénoncé, eux, cette décision en disant qu'au contraire, c'était une façon d'aller vers la fin d'un État juif. Est-ce que vous pensez que quand même l'État d'Israël infléchisse un petit peu sa politique?
Non, pas du tout. Je pense que la politique définie par ce qu'on appelle le danger démographique, entre guillemets, qui est un concept récurrent en Israël, et de plus en plus, cette politique est de plus en plus réelle. Et c'est ce qui explique d'ailleurs cet amendement à la loi de la citoyenneté qui interdit à des citoyens israéliens qui ne sont pas d'origine juive à vivre dans le pays avec leur époux non juif. Non, au contraire, plus que jamais, la politique est celle de fermer, je dirais, les frontières de la citoyenneté et de la résidence à ceux qui ne sont pas juifs. L'exception qui a été faite avec les enfants des immigrés qui se trouvent dans le pays était pour résoudre un problème d'urgence que, sous la pression de la Cour suprême, d'ailleurs, les autorités ne pouvaient plus ignorer.
La population arabe représente quand même 20% de la population de l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut encore parler d'un État juif au jour d'aujourd'hui, concrètement ?
Il faut faire la distinction entre l'État et la société. L'État est juif parce qu'il se définit en tant que tel et parce qu'il s'autorise à légiférer de telle sorte que une communauté dominante, la communauté juive, soit privilégiée et que tout soit fait pour qu'elle reste aussi majoritaire que possible. La réalité sociologique du pays, elle, n'est plus celle d'un État juif. Il ne s'agit plus d'un pays où l'immense majorité est juive et il y aurait une petite minorité marginale d'Arabes. Il y a aujourd'hui en Israël une minorité de plus de 20%, et je ne parle que dans les limites de l'État d'Israël, je ne parle pas des territoires occupés, de 20% de citoyens arabes. Il y a 5% au moins de résidents étrangers, des travailleurs immigrés. Il y a encore environ 10% de Russes qui ne sont pas juifs, même s'ils ont été définis pour des raisons précisément pour maintenir un équilibre démographique comme juifs, parce que leur époux est juif ou leur épouse est juif ou ils auraient éventuellement un arrière-grand-père juif. La réalité sociologique du pays est que les juifs sont une communauté majoritaire, mais une communauté parmi d'autres. L'État, par contre, continue à gérer cette société et à se gérer lui-même et à gérer ses lois et ses pratiques sur la base d'un État qui est juif, avec peut-être une petite minorité marginale de non-juifs.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut parler de fracture sociale dans la société israélienne ?
Oui, évidemment, il y a en Israël, comme dans tous les pays du monde, des fractures, d'ailleurs allant en grandissant, entre les classes sociales, entre une minorité qui s'enrichit, qui devient d'une richesse éhontée, je dirais, comparée à une forte minorité, plus de 30%, près d'un tiers des enfants israéliens, par exemple, vivent sous le seuil de pauvreté, d'après les données de la sécurité sociale israélienne. C'est quand même un chiffre significatif. Il y a le fossé entre les plus riches et les plus pauvres en Israël est d'ailleurs le plus élevé de tous les pays développés du monde.
Et si la situation de ces fractures donc s'aggrave, quels sont les risques ?
Le risque d'une implosion de la société, c'est une société très jeune, finalement Israël a moins de 60 ans, une société de 60 ans, c'est vraiment rien du tout, et avec une colle, je dirais qu'il colle ses différentes composantes assez faibles, il faut des générations et des générations pour faire d'un ensemble de vagues d'immigrations diverses et de communautés venues d'horizons ethniques et culturels très différents pour en faire une entité homogène, d'autant plus qu'une partie de cette population, elle n'est pas marginale, elle fait 30%, n'est pas reconnue comme faisant partie du collectif souverain, que ce soit les Arabes, que ce soit les autres communautés non-juives, et donc les risques d'une implosion à terme sont très réels.
Quel est selon vous l'enjeu politique de cette question donc, au regard du conflit israélo-palestinien ?
Je dirais que quand nous sommes dans des phases ascendantes du conflit, des moments où le conflit s'aggrave, les fractures internes semblent disparaître ou en tous les cas disparaissent de la surface et sont quelque part un peu replâtrées. Mais je crois que ce plâtre est un plâtre très provisoire et très superficiel. Les fractures sont très réelles, même si face à l'ennemi commun, entre guillemets, elles ont tendance de temps à autre et pendant des périodes assez longues, on connaît ça maintenant depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, à disparaître, je dirais, des titres et des premières pages des journaux. Mais elles sont là, elles sont très réelles et je ne crois pas que, même dans les périodes de conflit, elles se résorbent. Elles sont là, elles sont plâtrées.
L'Afrique du Sud a célébré vendredi dernier les 30 ans du soulèvement du Township de Soweto. Nous saluons les jeunes de 76 car ils ont laissé un héritage de courage et de détermination, s'est exclamé le chef de l'État, Thabo Mbeki, durant les célébrations, appelant les jeunes sud-africains à suivre leur exemple d'engagement sans faille, alors qu'ils sont confrontés aux défis de la pauvreté, du chômage, de l'alcool, de la drogue et du sida. Le père Jean-Marie Dumortier vit depuis 1979 à Johannesburg, où il fut aumônier de la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, jusqu'en 1999. Il se souvient bien de ses années de lutte contre l'apartheid.
Je suis arrivé après le soulèvement de Soweto. Oui. Je suis arrivé en 79, en fait, juste après, c'est un peu la suite des événements de 76. En 78, tous les responsables de la JOC sud-africaine avaient été arrêtés. Il y a eu une cinquantaine de personnes arrêtées, dont le président national, qui était le premier président africain de la JOC sud-africaine. C'est Lelo Machane qui a été emprisonné pour presque une année. Donc moi, je suis arrivé juste après ces événements-là, dans une période assez sévère.
Qu'est-ce qui vous a le plus frappé lorsque vous êtes arrivé en Afrique du Sud, 3 ans à peine après ces événements-là?
C'était forcément une période d'apartheid pur et dur, et avec toutes les structures d'apartheid qui étaient mises en place, et puis un gouvernement qui était combatif, et qui à l'époque encore avait le sentiment sûrement de sa puissance et qu'il l'exerçait. Mais c'était aussi une période, pas encore de transformation, mais de mise en mouvement. Il y a eu deux grandes dates qui ont été le tournant pour l'Afrique du Sud moderne, on peut dire. C'est 73, les grandes grèves sauvages de Durban qui se sont répandues sur l'ensemble du pays et qui ont déclenché la mise en œuvre d'un mouvement ouvrier, le renouvellement d'un mouvement ouvrier, la remise en place du syndicalisme et les événements de 76 qui sont donc les événements étudiants qui, de leur côté, ont mis en place, ont engagé toute la révolte étudiante qui est des jeunes, en fait, et plutôt politique dans ce sens-là, qui n'a plus arrêté à partir de là. Donc c'était une période difficile. Il fallait beaucoup manœuvrer, il fallait être très prudent, mais en même temps, les gens avaient le sentiment que petit à petit, la liberté se gagnait, les organismes de libération se mettaient en place.
Alors justement, 73, grève, grande grève du monde ouvrier, 76, le soulèvement, la révolte étudiante, la preuve quelque part que finalement la lutte anti-apartheid n'était pas simplement une affaire d'anciens, et je pense à Nelson Mandela et Walter Sisulu.
C'est tout à fait vrai, ça c'est reparti comme une, comme on peut dire ça, une traînée de poudre sur le pays, sans que c'est été organisé par l'ANC, qui était à l'époque en exil et qui avait, je pense, très très peu de liens, en fait, avec la population locale, sinon comme symbole. Au point que le mouvement ouvrier qui s'est développé a démarré en marge de l'ANC, et qu'il a fallu plusieurs années à l'ANC pour reconnaître l'existence de la COSATU. C'est une chose qui a démarré sur le terrain, et qui, dans les circonstances de l'époque où donc tous les partis politiques de gauche étaient interdits, s'est glissé dans la situation du pays, dans la structure du pays, sous des étiquettes apolitiques. Et donc ça a été très important pour le mouvement ouvrier parce que ça a été la fondation d'un syndicalisme de classe et non pas un syndicalisme politique, de pousser aussi étudiantes qui étaient marginales par rapport à l'ANC en tant qu'organisation, certainement.
Aujourd'hui, avec le recul, quelle analyse, quel bilan faites-vous de la société sud-africaine après tout ce travail, ce chemin parcouru?
Disons que c'est quand même une transition qui réussit. Ce n'est pas un miracle, comme on le dit souvent, parce que c'est un mot facile. Ça donne l'impression d'une évolution qui s'est faite d'une manière instantanée. En fait, c'est une longue préparation. L'Afrique du Sud a eu une longue, longue histoire de luttes civiles, civiques, d'organisations qui se sont bâties au pas à pas, généralement dans le cadre autant que possible de la législation, dans le cadre de la loi, en gagnant des droits légaux, étape par étape, et de manière très difficile souvent, mais enfin pour s'installer sur le pays. Donc il y a eu toute cette montée de toute une population, une grosse partie de la population engagée dans ces organismes syndicales, organismes d'église, où les églises ont été très, très présentes, et qui a donné un style à la lutte sud-africaine et assurer une démocratie, qui soit une démocratie de droit et non pas prise de pouvoir par la force. C'est quand même ça, c'est très important. Je crois que ça s'est bien passé globalement. On a aujourd'hui un pays qui fonctionne, qui est bien géré, qui progresse, avec une situation, le problème de base de l'Afrique du Sud, c'est le chômage.
Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.